Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Voilà, nous trouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible, cette parabole, cette image que Jésus-Christ utilise. Une parabole, c'est une image pour nous parler de réalité spirituelle, de vérité qui concerne le royaume de Dieu, que Dieu veut nous donner de connaître pour le connaître et pour nous donner de saisir et recevoir sa grâce. Et donc on voit cette image que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle dans ce passage, cette image que Jésus-Christ donne pour nous parler du royaume de Dieu. Et il va utiliser donc cette image d'un homme qui a un figuier, un maître qui a une vigne, et dans cette vigne, il y a un figuier qui est planté. Et on voit donc cet homme qui va venir, après avoir attendu 3 ans, sans voir de fruits à ce figuier, qui va venir et va donner cette parole en demandant au vigneron de le couper. Et en posant cette question, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Et ce soir, j'aimerais vous poser cette question justement, et peut-être que vous vous l'êtes déjà posée, mais à quoi sommes-nous utiles ? Peut-être que vous êtes déjà posé cette question, à quoi ma vie est utile ? Peut-être même avant de se poser la question, à quoi ma vie est utile ? Peut-être vous êtes posé cette question, suis-je utile ? Parce qu'il y a une différence entre se poser la question, à quoi je suis utile ? C'est déjà réfléchir ce à quoi, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais il y en a qui se posent déjà la question, suis-je utile ? C'est avant de se demander ce que l'on doit faire. Est-ce que déjà on doit faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a une utilité à ma vie ? Est-ce qu'il y a un but ? À quoi elle sert ? Je crois que c'est des questions qu'on s'est tous posées d'une manière ou d'une autre à différents moments de notre vie. Et un homme dans la Bible a pu répondre à cette question en disant que tout est vanité et poursuite du vent. Voilà comment un homme dans la Bible a répondu à cette question. Et cet homme a utilisé cette expression « tout est vanité et poursuite du vent » pour désigner ce qui est vide, sans valeur permanente, ce qui conduit à un sentiment d'insatisfaction. Voilà pourquoi il utilisait cette expression « tout est vanité et poursuite du vent ». Et cette réponse, elle est partiellement vraie. Elle est partiellement vraie. Cet homme avait une analyse de la vie, et on va voir qu'il s'est pas arrêté à cela, à cette parole. Mais cette réponse, elle est partiellement vraie, parce que c'est ce que Dieu nous dit aussi dans sa parole. Dieu nous dit que, en dehors de lui, tout est vain. Que en dehors de lui, c'est le néant. Et c'est ce qu'il nous faut retenir, c'est en dehors de lui. Que dans notre vie, eh bien, ici-bas, tout n'est pas vain. Tout n'est pas poursuite du vent, et particulièrement justement Dieu lui-même, sa parole. Et par contre, en dehors de lui, c'est en rejetant Dieu, c'est en étant loin de sa parole, loin de ce qu'il veut pour nous, de ses projets de paix qu'il a formés sur chacune de nos vies, que tout est vain. Et la Bible nous parle justement de d'une vaine manière de vivre. La Bible nous parle de ce qu'est une vaine manière de vivre. La Bible nous dit que Dieu connaît les pensées de l'homme et il dit qu'elles sont vaines. C'est écrit dans le psaume 94, verset 11. Et ce soir, Dieu connaît les pensées qu'il y a dans nos cœurs. Toutes nos pensées, Dieu sait ce qu'il y a. Dieu sait ce qu'il y a vraiment dans ce moment, ce par quoi on peut passer dans nos vies, le chemin par lequel on passe. Mais il connaît même les pensées qu'il y a dans nos cœurs. Et il sait ce qu'on pense bien de ce moment, de cette réunion, ce que l'on pense de sa parole, de ce que l'on entend. Il sait ce que l'on pense de lui. Et il nous dit qu'il sait aussi les pensées qui sont vaines dans nos vies, dans nos cœurs. Et qu'est-ce que ça serait une pensée vaine ? Bien, une pensée vaine ce soir, ça serait de croire que l'on peut vivre cette vie ici-bas sans Dieu, que l'on peut vivre une vie ici-bas comme on le veut, comme on l'entend, en faisant nos propres choix, en menant notre vie comme ça nous arrange, en restant loin de la parole de Dieu, loin de Jésus-Christ, loin de tout ce qu'il a accompli pour nous. Eh bien, ça serait pour Dieu, eh bien, de vaines pensées. La Bible nous parle de vaines pensées. Elle nous parle aussi de discussions vaines. Elle nous parle même d'une foi qui pourrait être vaine. Elle nous parle même de prières vaines, d'une religion qui serait vaine. Elle nous parle d'un service qui pourrait être vain. Elle nous parle même de pasteurs qui pourraient avoir un service qui serait vain. C'est quand même terrible. Je ne sais pas si on réalise. Parce qu'on peut faire toutes ces choses sans Dieu. On peut aller à l'église sans Dieu. Alors comment on peut aller à l'église sans Dieu? Eh bien, en allant à l'église pour peut-être trouver un secours humain plutôt que le secours de Dieu. Il y a des personnes qui vont à l'église pour chercher justement seulement à être entouré, à avoir une aide, à avoir des relations sociales. Et ils recherchent premièrement seulement cela. Alors je dis pas que c'est mauvais. Parce qu'il y a des personnes qui viennent premièrement pour cela, mais qui réalisent aussi qu'il y a bien plus que le secours, que l'aide humaine, ici-bas, qu'il y a le secours de Dieu, et que c'est ça ce dont on a besoin, parce que c'est ça qui amène la solution, la restauration dans nos vies, dans nos cœurs. Mais quelqu'un qui seulement ça rechercherait le secours humain, bien viendrait à l'église vainement, sans Dieu. On peut venir à l'église vainement en cherchant à venir à l'église pour... seulement soulager sa conscience. Il y a plusieurs personnes qui peuvent venir dans ces dispositions-là, et c'est venir à l'église vainement. Ils viennent à l'église seulement pour dire voilà, j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, et maintenant je suis tranquille. On vient pour soulager sa conscience, et puis quand on ressort de l'église, c'est Dieu d'un côté et moi de l'autre. Et c'est bien comme ça. Il y en a qui pensent comme cela. Et ça, c'est venir à l'église vainement. Il y en a qui prient vainement. Comment on peut prier vainement? C'est particulier. Mais quand on prie vainement, c'est quand on prie seulement pour soi, dans une recherche justement seulement égoïste, sans chercher à prier, en recherchant Dieu, en recherchant sa présence, en recherchant quelle est sa volonté, en recherchant ce qu'il veut pour nous. Ça serait... de vaines prières, etc. Cet homme dont je parlais tout à l'heure, qui a pu, en analysant la vie, dire que tout est vanité et poursuite du vin, ne s'est pas arrêté à ça. Parce que sinon, ce soir, ça serait quand même triste. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si seulement on s'arrêtait sur cette parole, qui s'y bat, tout est vanité et poursuite du vin. Ça donne pas beaucoup d'espérance. Et ce soir, eh bien, à l'opposé, hein, c'est bien ce que Dieu veut. C'est pas nous décourager, que l'on reparte de ce lieu désespéré, mais non, au contraire, c'est que nous puissions repartir de ce lieu remplis d'espérance. Remplis d'espérance pour notre vie ici-bas, vraiment, pour aujourd'hui, pour notre lendemain, mais jusque dans l'éternité. Et cet homme a pu être travaillé dans son cœur, a pu réaliser ce qu'il y avait de plus grand, de plus important. Et il a pu dire, dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour rien, inutilement. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Cet homme, donc, il a réalisé que c'était bien en dehors de Dieu que tout était vain. Si l'Éternel n'est pas au centre, eh bien, on peut se démener, on peut travailler à fond, on peut se lever très tôt, on peut se coucher très tard, on peut, se donner dans le travail, pour la famille, pour plein de causes, même des causes humanitaires. Et tout cela est vain. Si l'Éternel n'est pas au centre, si l'Éternel n'est pas en priorité, tout est vain. Parce que ce soir, ce qui nous intéresse, en répondant à cette question, à quoi suis-je utile, quel est le but de la vie, c'est bien ce que Dieu veut nous dire, c'est ça ce qui nous importe, c'est pas qu'est-ce que l'on pense par rapport à cette question, parce que c'est ça la solution. Et ce soir, peut-être que quelqu'un pense que sa vie, eh bien, elle est utile, parce que peut-être que cette personne est surchargée, fait plusieurs choses qui peuvent être bonnes. Hein, le travail, c'est bon, prendre soin de la famille, c'est bon, toutes ces choses, elles sont bonnes. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être excellentes. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, et ce qui est vraiment la solution pour nos vies, pour nos âmes, pour nos cœurs, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense de cette question, qu'est-ce qui est utile pour nous. Et Dieu nous le demande, c'est en plaçant le Seigneur, en plaçant Dieu au centre, en priorité, à la première place. Si l'Éternel, on a lu, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, pour rien. On pourrait dire, à l'opposé, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, eh bien, ne travaillent pas pour rien, travaillent utilement. J'aimerais faire une parenthèse sentimentale, mais vraiment que j'ai à cœur. Parce que ce verset, vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue avec mon épouse. Et une expérience, je ne sais pas si elle m'entend. Et une expérience, parce qu'elle est à côté, alors je... Et ça a été notre décision de, justement, dans notre couple, dans notre relation, nous appuyer sur ce verset pour bâtir notre foyer. Vraiment, on l'a eu à cœur, il nous a touchés profondément, et on s'est dit, c'est ce que l'on veut faire, c'est ce que l'on choisit de faire, de mettre Dieu au centre de notre couple, de notre relation, et de nous appliquer à le faire, mais tous les jours de notre vie. Et vraiment, aujourd'hui, en fait, ça fait 5 ans que l'on est mariés, précisément aujourd'hui. C'est la, voilà, parenthèse sentimentale. Mais je ne peux pas dire que c'est grâce à moi. Je ne peux pas dire que c'est mon œuvre. Mais vraiment, je suis là pour dire, voilà, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre couple. Et c'est pour sa gloire que je veux simplement le partager. Quand on juste s'applique à faire ce qu'il faut, parce qu'il y a un choix, c'est vrai quand même, néanmoins, il y a la grâce de Dieu, mais il y a un choix qui nous appartient. Et quand on s'applique à faire ce qu'il nous demande, c'est vrai, Antoine disait, c'est pas toujours facile. Dans la marche avec le Seigneur, dans la marche avec Dieu, quand on choisit de le placer au centre, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Je pense qu'on est tous d'accord, ceux qui se sont engagés à marcher avec le Seigneur, je pense qu'on serait plusieurs à pouvoir témoigner, la vie, elle est beaucoup plus facile quand on le place au centre, quand on le laisse régner sur nos vies, sur nos cœurs. Et vraiment, avec notre épouse, on était heureux tout au long de cette journée de pouvoir justement revoir ces différentes étapes et l'œuvre de Dieu, combien elle est merveilleuse, admirable quand on le laisse régner, quand on le laisse tout diriger. Parce que quand on choisit de le laisser bâtir notre maison, alors vous avez compris, c'est pas une maison physique, c'est cette maison, cette relation pour nous, c'est comme ça que l'on l'a pris. Eh bien, on bâtit sur du solide, on bâtit sur du dur, sur un rocher inébranlable. C'est la grâce que Dieu nous donne à chacun de nous. Et il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir tout ce que vous voulez. La maison reste ferme, elle reste debout, c'est pas par nous-mêmes, c'est parce que Dieu est là. C'est parce qu'il est celui qui nous protège et parce que voilà, c'est lui qui nous donne de ne pas bâtir en vain. Alors je sais pas le choix que vous voulez prendre ce soir. Nous avons vu ce figuier qui était là pendant 3 ans, qui a occupé la terre inutilement. On pourrait se poser cette question, vraiment, à quoi suffit-il et pourquoi occuper la terre inutilement? Le Seigneur, nous le voyons au travers de ces différents textes, nous donne de choisir, en fait, finalement, de choisir entre une vie utile, une vie inutile. Et il est celui qui nous donne de pouvoir voilà, avoir une vie qui a un véritable but, un véritable sens. Mais dans ce texte, nous voyons aussi les conséquences de vivre vainement, de vivre sans Dieu. Et c'est vraiment là aussi ce qu'il nous faut bien saisir, bien comprendre ce soir. Dieu nous prévient, et vraiment c'est par amour, c'est par grâce, miséricorde, qu'il veut nous avertir. Mais nous voyons quand même, dans cette parabole, le maître de la vigne, ce figuier qui a demandé, coupe-le, cette parole qui était là, coupe-le. Et il nous faut bien comprendre cette parole pour nous aussi aujourd'hui. Parce que nous avons un choix qui est vraiment important. Parce que le Seigneur veut vraiment nous amener dans sa volonté, dans ses projets merveilleux. Mais il y a des conséquences si on refuse, si on résiste. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons coupés, ce n'est pas que nous soyons déracinés. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons jetés au feu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons inutiles. Non, Dieu veut vraiment, et c'est pour chacun de nous sans exception, et il y a vraiment une utilité, un but pour lequel Dieu nous a créés, pour lequel Dieu nous a voulu. Mais il nous laisse le choix ce soir. Et nous voyons dans ce passage en même temps la miséricorde, vraiment la patience de Dieu à notre égard, au travers de cette parole du vigneron qui a demandé « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Nous voyons vraiment la patience de Dieu, c'est ce que j'aimerais que l'on retienne. Ça a été l'attitude de ce vigneron, simplement de demander au maître d'attendre. Et on reconnaît là vraiment... l'œuvre de Dieu à l'égard de chacun de nous. La Bible nous dit que Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun s'égare, ne voulant pas qu'aucun reste inutile dans une vie vaine, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité, voulant que tous parviennent à la repentance. C'est à cela que Dieu veut que l'on parvienne, et il use de patience. Et ce soir, eh bien, prenons conscience de cette patience, mais pas pour mal l'utiliser, se dire « j'ai le temps », mais justement pour saisir ce soir la grâce que Dieu nous donne, parce que nous sommes encore dans ce temps de patience. J'aimerais qu'on réaffiche le chant que nous avons chanté « Laisse entrer le roi de gloire ». Alors ne prenez pas peur, on ne va pas le chanter. Pour ceux qui me connaissent, mais... j'aimerais qu'on le relise, vraiment, parce que je ne sais pas si on s'est arrêté sur ces paroles quand on les a chantées, si on les a considérées pour chacun, mais c'est vraiment ce qui avait sur mon cœur aussi quand je méditais ce passage pour chacun de nous, la parole de Dieu, ce qu'il veut nous annoncer. Entends-tu ? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde. Rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore, ouvre à ton libérateur. Et pour toi, luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain, pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. Voilà la parole de Dieu pour chacun de nous ce soir. Voilà la parole de Dieu pour toi qui es là, pour toi qui peut être loin, pour toi qui résiste, pour toi qui n'as pas répondu à cet appel à saisir sa grâce. J'aimerais rappeler que pour que nous puissions être utiles, utilisables entre les mains de Dieu, pour Dieu, le roi de gloire, c'est Jésus-Christ, le vigneron qui a demandé justement ce sursis dans ce passage, nous représente le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il accomplit pour chacun de nous, pour que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Et ce roi de gloire, c'est Dieu lui-même. Et la parole nous montre que Dieu lui-même, pour que nous puissions être utiles, pour que notre vie puisse entrer dans ce pourquoi nous avons été créés, le but, bien, pour cela, il a fallu que Dieu lui-même vienne sur cette terre. Il a fallu que Dieu lui-même vienne comme un simple homme. et pas pour se faire servir, pour nous servir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce soir, la grâce de Dieu, elle est là parce qu'il y a eu un prix, parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Lui, le roi de gloire, il est allé à la croix pour chacun de nous volontairement. Il a donné sa vie par amour pour que nous ne périssions pas, mais pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons pas et nous demeurions pas inutiles, mais pour que nous puissions être utiles, pour que nous puissions être et ne pas manquer le but, la vie éternelle, être avec Dieu dans le paradis pour l'éternité. Et ne pas être dans un lieu de souffrance, de misère, de regret, de pleurs, de grincements de dents pour l'éternité. Parce que c'est les conséquences de résister. Pour cela, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, son sang a coulé, afin que nous soyons de nouvelles créatures, afin que nous soyons transformés, afin que nous puissions appartenir à Dieu, réconciliés avec Dieu, en paix avec Dieu. Il y a eu un prix, Jésus-Christ a donné sa vie. Voilà l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et Dieu nous appelle ce soir. C'est pas un homme. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce soir, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne reçoive la grâce de Dieu vainement, en vain. Parce que ce passage nous en parle, qu'est-ce que ça serait là encore, recevoir la grâce de Dieu en vain? Ça serait dire, oui je suis d'accord avec tout cela, oui tout cela est bon, tout cela est parfait, tout cela me va bien, mais je reste dans ma position, je reste loin de Dieu, je reste dans la désobéissance, je reste dans le péché. On pourrait dire, oui je suis d'accord, j'accepte, je veux, mais je reste loin de Dieu, je ne fais pas ce qu'il me demande. Ça serait cela, recevoir la grâce de Dieu en vain. Et ne croyez pas que pour ceux qui diraient « oui, je réponds à l'appel de Dieu, oui, je veux recevoir ta grâce tout en restant dans le péché », ne croyez pas que vous recevez le pardon de vos péchés, ne croyez pas que vous êtes en paix avec Dieu, ne croyez pas que vous êtes réconcilié avec Dieu, que vous êtes sauvé, parce que c'est faux, c'est un mensonge. Et la grâce de Dieu est là ce soir pour nous éclairer, nous donner de ne pas la recevoir en vain. De la recevoir véritablement et que cette grâce vienne vraiment produire un changement véritable dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut ce soir, qu'il y ait un changement de vie, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à produire du fruit. Et quel fruit Dieu attend de nous? Vous voyez dans cette parabole que le maître attend un fruit de ce figuier, et puis de la même manière, Dieu attend un fruit de chacun de nous. Quel est le fruit que Dieu attend? Bien le fruit de la repentance. C'est écrit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et d'ailleurs, ce passage dans Luc que nous avons lu, nous voyons au verset 6, il dit aussi cette parabole. Il dit aussi. Donc, on voit que c'est en lien avec ce qui est au-dessus. Et la dernière phrase, juste au-dessus de ce verset, nous dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Qu'on voit vraiment l'importance de la repentance. La repentance nous amène à la vie, nous amène à recevoir le pardon de nos péchés, la grâce de Dieu, mais nous amène à produire du fruit. Une véritable repentance, une repentance sincère amène un changement, amène à produire du fruit. Et quel est le fruit de la repentance? Eh bien, le fruit, par exemple, de la repentance, c'est si je volais, eh bien, je ne vole plus. Je rends ce que j'ai volé, je répare, si je peux. Je mentais, je ne mens plus. J'étais méchant, vulgaire, ben je m'arrête d'être vulgaire et j'aime mon prochain. J'aime mon prochain comme moi-même. La parole de Dieu nous parle justement du fruit de la chair, Elle nous parle, elle nous montre, il y a cette liste dans Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit. Mais le fruit de l'Esprit, ça c'est vraiment le fruit auquel Dieu nous appelle, c'est le fruit qu'il veut voir dans nos vies, dans nos cœurs, prendre place par sa grâce, sa présence dans nos vies, dans nos cœurs. Le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Quelle grâce! Je ne sais pas quel est le fruit qu'il y a dans vos vies, le fruit de vos cœurs. On pourrait se poser cette question, quel est le fruit qu'il y a dans ma vie? Est-ce que je porte du fruit? On en revient à cette question, est-ce que je suis utile? Quel est le but? À quoi je sers? Quel est le fruit? On voit dans la parole toutes sortes de fruits, on en a lu quelques-uns. Il peut y avoir un fruit amer et un fruit vraiment... doux, paisible, qui amène vraiment la bénédiction, la grâce, le fruit de l'Esprit. Et c'est vraiment ce que Dieu veut amener, c'est son œuvre. Et ce soir, il nous laisse le choix. Alors, eh bien, si tu veux que ta vie soit utile, qu'elle ait un véritable but, un véritable sens, eh bien, donne-la à Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur, repens-toi, place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix, dans ce qu'il a accompli pour toi, parce que tout est là. S'il y a bien des œuvres inutiles, vaines dans ce monde qui ne servent à rien, l'œuvre de la croix est l'œuvre la plus grande, la plus utile. Vraiment, je ne sais pas si on le réalise, si on le considère, c'est l'œuvre la plus grande, la plus utile que Dieu ait accomplie pour chacune de nos vies, pour nos cœurs, pour nos âmes. Et Dieu nous appelle simplement à la considérer, à réaliser le prix qu'il a payé pour cela, pour que nous puissions être utiles, utilisables entre ses mains, pour que nous puissions ne pas manquer le but. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse répondre à cet appel. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. J'aimerais qu'on puisse terminer par un temps de prière. Parce qu'encore ce soir, le Seigneur est là et il t'appelle et il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer les vies brisées, les vies qui ont été vaines, inutiles, qui ont été détruites à cause du péché. Dieu, dans sa grâce, a le pouvoir, et c'est ce qu'il veut, de restaurer, de relever. À lui, tout est possible. Et ce soir, il t'appelle. Il passe encore ce soir. Oui, il est là par sa présence et il veut te bénir. Ce soir, tu as peut-être répondu déjà à cet appel. Tout était là pour répondre, avant même ce message. Et ce soir, j'aimerais t'inviter, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, afin d'être restauré, afin de lui appartenir, afin de ne plus vivre vainement, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, si tu veux maintenant, aujourd'hui, qu'il y ait ce changement dans ta vie, que ta vie maintenant, ce soir, prenne un sens, qu'il y ait le but que Dieu a donné à chacun, à chaque être humain, si tu veux ne pas manquer le but ce soir, eh bien, je t'inviterai à répondre à l'appel de Dieu. Tu peux le faire sur ta chaise, simplement dans ton cœur, en demandant oui, pardon Seigneur, en te repentant sincèrement de tout ton cœur, en plaçant ta foi dans le Seigneur. Mais peut-être que pour quelqu'un c'est difficile, peut-être qu'il y a cet appel depuis plusieurs années. On voit ce maître de la vigne qui est venu, ça faisait 3 ans, peut-être que ça fait 3 ans que le Seigneur t'appelle et tu n'as pas répondu, peut-être ça fait 3 ans que tu viens dans cette église et il n'y a pas eu de changement dans ta vie, peut-être ça fait plus longtemps. Ça devient lourd, ça devient compliqué, tu ne vois pas le fruit de l'Esprit, le fruit auquel Dieu t'appelle. Eh bien ce soir, si tu le veux, tu peux t'approcher sur le devant si tu as ce besoin et nous prierons pour toi. On est là devant Dieu, on n'est pas là pour se regarder, mais il y a vraiment la grâce que Dieu veut déverser parce que nous sommes dans ce temps de la patience de Dieu. Et encore ce soir, ne passe pas à côté. J'aimerais qu'on puisse reprendre un dernier cantique. Et durant ce cantique, oui, je vous inviterai à répondre à l'appel de Dieu, que ce soit pour faire la paix avec le Seigneur, que ce soit peut-être pour un besoin particulier, peut-être une maladie, une difficulté, une souffrance. Ce soir, cet appel, il est pour chacun. Comme on l'a vu, on peut être chrétien, on peut venir à l'église et faire tout cela vainement ce soir. Vraiment, Dieu appelle. Réponds.